Alors, les amis du Cholet, où êtes-vous? Ah oui, voilà, oui, Cholet. Alors, je vous remercie, les frères et sœurs du Cholet, parce que vous m'aviez quand même dit deux ou trois choses au sujet des habitants d'Angers, et ça s'est avéré tout à fait vrai. Heureusement que vous m'avez mis en garde. En l'occurrence, ils sont très accueillants, fraternels, ils sont même beaux à voir, comme vous à Cholet, bien sûr, qui m'avez accueilli chaleureusement mercredi, et on a eu un moment délicieux ensemble. C'est incroyable, ça fait 2 semaines que je baigne dans le Val, pas dans la Loire, mais dans le Val-de-Loire. On m'avait dit, il faut que tu passes par la Poissonnière quand tu arrives à Angers, tout ça. Alors je l'ai fait. Et j'ai vu tout le long, depuis Cholet jusqu'à Angers. En fait, j'ai absolument rien vu du tout, parce qu'il y a 3 jours, il faisait un brouillard à couper au couteau. Donc je suis passé sur l'île de Bréhard, je suis passé à la Poissonnière, j'ai vu la pancarte sur le bord de la route, et puis heureusement que j'avais un GPS. Alors maintenant, on va être obligé de revenir avec ma femme. C'est vraiment une grâce d'être avec vous ce matin. Pas trop de bavardage, mais ah ben ça, c'est la vue de mon balcon chez moi à Québec, chez nous, pardon. On est gâtés, on a une vue automnale. Ça, c'était il y a 3 semaines. Alors maintenant, ça commence à se gâter. Clic suivant, s'il vous plaît. Juste très rapidement pour vous dire que le Canada, c'est un grand pays. Vous le saviez sans doute. En fait, du Québec à l'extrême droite, si je puis dire, jusqu'à la Colombie-Britannique, jusqu'à l'extrême gauche. C'est quasiment plus loin que de là jusqu'à Paris. Donc c'est vaste. Pour tout ça, pour 35 millions d'habitants. Clic suivant, s'il vous plaît. Voilà le Québec, avec 8 millions d'habitants pour un territoire qui fait 3 fois la France. Alors, mais quand même, on rencontre des gens de temps en temps. En fait, Montréal est une grande ville, 4 millions d'habitants, beaucoup de monde, beaucoup de trafic, de problèmes de circulation. Et puis la belle ville de Québec, beaucoup de Français ne réalisent pas que Québec, c'est le nom de la province, mais c'est aussi le nom de la ville, qui est notre ville, qui est la capitale du Québec, et qui est une ville magnifique, la ville la plus européenne de l'Amérique du Nord. On en est un peu trop fier, mais bon, c'est pas grave. On aime beaucoup cette ville où on habite, même s'il fait plus froid qu'à Montréal, plus de neige et plus longtemps qu'à Montréal, mais bon, on pardonne. De toute façon, si on pardonne pas l'hiver au Québec, on reste pas au Québec. Voilà. Clic suivant, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un petit échantillonnage tout à fait arbitraire de frères et sœurs, quelques-uns. J'ai le privilège de beaucoup de m'occuper de communication, de traduction. C'est un pays bilingue avec toutes les complications que ça peut engendrer. Ben, c'est un beau défi. Et puis, mais en même temps, c'est aussi, je m'occupe beaucoup aussi de visiter nos églises qui sont quelquefois en transition, sans pasteur pendant un temps, et celles où on m'invite. Et quelquefois même, on me réinvite, ce qui est une grâce extraordinaire. Mais c'est vraiment un privilège pour moi depuis 9 ans de sillonner la province. Alors moi, si on parle de Montréal, je dis, ah, Montréal. C'est comme si un Américain voulait parler tout le temps de Paris pour parler de la France. Alors une fois qu'il a vu Paris, il a vu Paris. Mais il n'a pas vu la France. C'est pas à vous que je dirais ça, quand même. Il y a tellement de choses à découvrir, hein. À Montréal, c'est une grande ville, mais le reste, ça devient vite des grandes campagnes, hein, très étirées, des villages très éloignés. Quelquefois des centaines de kilomètres les uns des autres. Alors, on en mange de la route, été comme hiver, mais quel privilège de rencontrer partout des hommes, des femmes qui, comme vous, ben non, là, ils dorment tout de suite, mais un peu plus tard, à toute heure, selon le contexte, se retrouvent pour célébrer le Seigneur. Ils aiment Dieu. Quelquefois, ils n'ont pas accès à des ressources trop extraordinaires. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de matériel ou d'équipes de musiciens ou de prédicateurs, mais ça ne les décourage pas. Ils se retrouvent, brave l'hiver, et puis ils se retrouvent pour chanter les louanges du Seigneur, partager leurs témoignages de vie, prier, s'encourager les uns pour les autres, partager sa parole. Et avec l'âge, j'ai de plus en plus de respect pour les hommes et les femmes, comme vous d'ailleurs, dont on connaît souvent si peu l'histoire, et qui, malgré beaucoup parfois de fardeaux, de souffrances, des histoires quelquefois on n'imaginerait pas, qui s'attachent au Seigneur et à son Église, puis qui tiennent bon, qui persévèrent, qui sont là, solides. Et ils sont solides parce qu'ils sont sur le roc qui est solide, comme vous, quoi, hein, je pense. Alors, je bénis Dieu pour eux et plein d'autres. Clic suivant, s'il vous plaît. Ah, je bénis Dieu pour cette femme qui est la mienne depuis 41 ans, vous vous rendez compte? Et elle sourit encore, c'est quelque chose. On est quasi fusionnel, c'est pas bien, je sais, mais tant pis. et on s'aime beaucoup, même si elle n'est pas là. Elle vous prie de l'excuser. Moi, non, je ne l'excuse pas, mais vous pouvez excuser. Si vous regardez en haut à droite, derrière, il y a un petit panneau d'interdiction. Il dit « Interdiction de déposer de la neige ». Heureusement qu'il y a un panneau quand même. Hein, c'est... Ceci dit, quelques jours plus tard, il n'y avait plus de panneau parce que la neige montait plus haut. Ça, c'est... Il faut bien la mettre quelque part. Hein. C'est typique de notre quartier, ça, c'est chez nous. Mais l'hiver est magnifique. Il neige ou il fait beau ? Il fait beau ou il neige ? Le seul problème, c'est que ça dure 2 mois de trop, à peu près, quoi, selon moi. Hein. Mais on aime ça. Clic suivant. Et suivant, là, il doit y avoir une petite page noire. Voilà. Ah oui, encore un autre clic pour vous signaler très rapidement que j'ai avec moi 2 livres, dont un sur le thème que je partagerai cet après-midi, la simplicité. Moi, je suis quelqu'un de très compliqué. Alors, j'avais besoin d'écrire un bouquin. C'est de l'autothérapie, en fait, pour essayer de... Enfin, pour partager comment le Seigneur nous appelle à apprendre à vivre plus simplement dans nos relations avec lui, d'abord, les uns avec les autres, puis avec le monde qui nous entoure. Alors, si ça vous intéresse, il y en a sur la table à la sortie, ainsi que quelques exemplaires du livre de ma femme, qui est bien meilleur, mais il ne faut pas lui dire. Clic suivant, s'il vous plaît. Pour arriver à notre thème, embrasser le mystère. Un peu étrange, peut-être, comme expression. Il me semble que plus on prend de la bouteille, de l'âge, surtout pas la bouteille, attention à la bouteille, plus on change un peu de perspective. D'abord, on met des lunettes, et ensuite, il y a des choses qu'on appréhende un petit peu autrement. Oui ou non ? N'ayez pas honte d'avoir 50 ans et plus, ou 60 ans et plus, c'est une grâce. D'ailleurs, quel que soit votre âge, c'est une grâce. Elle est jeune. C'est une grâce d'avoir l'âge que vous avez. C'est une faveur imméritée. C'est un cadeau de Dieu, notre âge. Quel qu'il soit. Amen ? Ouh, il y en a qui ne sont pas convaincus, là. Ben. C'est un mystère, hein, le mystère de bien vivre son âge. Et c'est ça. Et puis, on se rend compte peu à peu qu'on aime les convictions, on aime les certitudes. Vous n'avez pas les certitudes ? D'ailleurs, si on est ici ce matin, on vient de célébrer nos certitudes. L'amour de Dieu, sa grâce en Jésus-Christ, le salut, l'assurance de la vie éternelle et de sa fidélité dans notre quotidien. Ce n'est pas des certitudes, ça ? Le problème, quelquefois, c'est que parce qu'on a tellement de belles certitudes en Jésus-Christ, il y a le danger de penser que tout est certitude, qu'on maîtrise tout, qu'on doit tout comprendre et que tout s'explique d'une manière ou d'une autre. Alors là, on va au-devant d'un problème. C'est que, non, tout n'est pas explicable. Tout n'est pas contenable. Non, on ne peut pas tout comprendre. En tout cas, pas moi. Et puis, plus la vie avance, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de mystères qui sont plus résistants que tous nos raisonnements et le reste. Et puis, il faut faire avec. Il faut l'accepter. Clic suivant. Le mystère de la vie, c'est tout un mystère, la vie. Hein. Comment, d'un acte d'amour, en principe, de préférence, un garçon, une fille peut naître. Moi, j'ai 2 petites filles, je suis complètement gaga, alors je ne vais pas en parler, parce que sinon, ça va être trop long. Mais tous les papis et les mamies compatissent, j'espère. Mais le mystère de la vie, en 3 ans, j'ai dit que j'en parlerai plus. Bon, mais... C'est incroyable, c'est magnifique, le mystère de la vie. Le mystère de la foi, il est grand le mystère de la foi, dit le prêtre lors de la messe. On pourrait le dire ici aussi. Oui, d'ailleurs l'apôtre Paul le dit. Oui, il est grand le mystère de la foi. C'est pas mystérieux, on croit en un Dieu qu'on ne voit pas, on ne l'entend pas. On l'entend pas audiblement. Si on l'entend audiblement, il vaut mieux vérifier avec quelqu'un pour s'assurer que c'est bien lui qu'on entend. Que peut-être on n'a pas des troubles auditifs ou autres, mais Dieu parle, pardon, de 1000 et 1 manières, mais moi, je n'ai jamais entendu sa voix, audiblement. Ça ne m'empêche pas d'être... Au contraire, ça m'oblige encore plus à être à son écoute, de d'autres façons. Mais le mystère de la foi, ce n'est pas un mystère. On croit en un Dieu invisible, inaudible, si je puis me permettre, et on y croit de tout notre cœur, et on l'aime, et vous l'aimez, ça se sent bien ce matin. Ce n'est pas un mystère. Quelqu'un qui passe dans la rue là et qui rentre pour dire mais ils sont un peu, d'ailleurs ils le disent, hein, ils sont un peu niaiseux. Au québécois on dit niaiseux. Hein. Niaiseux ça veut dire nier quoi, c'est un peu Il croit, c'est comme ça. Dieu, il est où Dieu? Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on l'entend? Et pourtant, nous, on sait que pour nous, il est une réalité incontournable. Il fait partie de notre vie, mais c'est pas un mystère, la foi? Bien sûr que c'est un mystère. Le mystère de l'iniquité, l'Écriture en parle. On pourrait, de manière plus générale, parler du mystère du péché, les ravages qu'il a fait dans nos vies et qu'il continue de faire dans notre monde. Pas besoin d'écouter le nouvel longtemps. Et puis, regardons en nous-mêmes. Nous-mêmes, encore, il y a des relents, il y a des vieilles racines, il y a des cochonneries qui traînent, excusez l'expression. Il y a toujours du ménage à faire, hein, mesdames et messieurs. C'est pas vrai? Mais par la grâce de Dieu, on peut le faire, le ménage. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. L'Écriture nous dit que nous parle du mystère de la piété. La piété, c'est ce qui parle de notre attachement à Dieu. Ce n'est pas un mystère. La prière, ce n'est pas un mystère. On parle à Dieu et en plus, on s'attend à ce qu'il nous réponde. Il n'a pas autre chose à faire. Bien sûr qu'il a autre chose à faire, mais il est Dieu. Et bien sûr qu'il entend notre prière et qu'il est capable de l'exaucer selon son bon plaisir et ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ce n'est pas un mystère. Dieu est souverain, tout-puissant, totalement indépendant de nous. Il n'a pas besoin de nous, Dieu. S'il voulait se passer de nous, franchement, il se serait épargné beaucoup de problèmes. Je ne dis pas ça pour vous, mais pour d'autres. Mais non, il nous a créés à son image, il nous a voulu. Ce n'est pas un mystère, ça. Mais Dieu est souverain, il n'a pas besoin de nous pour faire courir, faire marcher le monde. Mais il nous rend partenaires, ouvriers avec lui, par la prière, par le témoignage, par la diffusion de sa parole. Ce n'est pas mystérieux tout ça? Le mystère du ministère. Comment un bonhomme peut se tenir devant vous et avoir la prétention au seul instant qu'il puisse avoir quelque chose à suggérer comme venant de la parole de Dieu? Mais pour qui il se prend celui-là? On est juste des serviteurs, enfants de Dieu, et puis on veut juste être témoins et porteurs de cette parole de vie. C'est un mystère, franchement. Ça fait 40 ans que je trouve que c'est un mystère. Et le mystère du royaume de Dieu. Dieu règne absolument, totalement, définitivement, souverainement. Il règne. Ce n'est pas à venir, il règne. Et pourtant, ça ne paraît pas toujours dans les nouvelles, ni dans ce qui se passe dans la rue, la nuit, dans le quartier. Je suis témoin. Il y a des choses, on dit, Seigneur, tu règnes, mais... Il est où ton royaume? On ne le voit pas trop encore. On sait qu'il est en marche. On sait que le jour vient où il va éclater et se manifester dans toute sa gloire quand le roi sera là. Parce qu'il n'y a pas de royaume dans la plénitude sans le roi. Il faut qu'il soit là en personne, sinon ça ne marchera pas. On a compris ça, je pense. Alors, il y a toutes sortes de mystères. Le mystère de la maladie, bien sûr, c'est une conséquence indirecte du péché. Mais la mort, qui n'attend pas toujours le nombre des années, la sexualité, la souffrance, la Trinité. Trouvez ça logique, vous, la Trinité? Dieu, le Père, le Fils. Ah, c'est facile. Il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pour l'esprit de beaucoup de gens, c'est complètement fantasque. Je veux dire, c'est impossible à saisir. C'est un mystère. Le mystère de la croix. On va célébrer, partager la communion dans un moment. Ce n'est pas un mystère qu'en prenant ce bout de pain et cette coupe, on commémore quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans pour nous. Ce n'est pas magique, la communion, mais c'est un mystère. On dit que c'est un symbole. Moi, j'aime bien dire que c'est un signe. Un signe, c'est plus qu'un symbole. C'est un signe de notre appartenance à Jésus-Christ, mais c'est un mystère. Il n'y a pas d'autre mot, selon moi. Alors, j'aimerais enfin ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29. Et au verset 29, il fut un temps où c'était le verset préféré des étudiants à l'école biblique. Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Daniel. À l'école biblique, on avait des grandes discussions, on refaisait le monde tous les matins environ. Et puis, c'est bien d'essayer. Et puis, on avait des discussions hautement théologiques et souvent hautement théoriques, d'ailleurs. C'était intéressant, c'est bien. Puis, c'est le moment où jamais on réfléchit, on confronte des idées, etc. Et je me souviens d'une discussion qu'on avait, où à un moment donné, on mettait dans le coup un des profs, on lui disait, monsieur ou frère, sœur, je ne sais pas, expliquez-nous, etc. Et puis on avait des discussions, et on discutait. Et puis à un moment donné, je me souviens d'une fois où le prof nous disait, écoutez, de toute façon, hein, dites-vous bien une chose, c'est Deutéronome 29-29. Alors il dit, pardon, c'est son numéro de téléphone ou quoi? À l'époque, c'était un peu ça. Mais non, pas du tout. Deutéronome, clic suivant, vous allez le voir apparaître, je pense. Deutéronome 29, 29. Ah oui, pardon, une petite illustration intéressante en passant. On nous dit, je n'ai pas vérifié, mais que plus de 90% des fonds sous-marins sur la planète n'ont encore jamais été explorés. C'est pour ça qu'on a mis longtemps à retrouver le Titanic. C'est quelque chose quand même. Hein. Alors disons que c'est 50%. Allez, peut-être qu'il y a eu des progrès de fait, mais c'est quand même phénoménal. À combien plus forte raison on peut admettre qu'il y a beaucoup de mystères dans les choses qui nous entourent, même pour nous chrétiens qui vivons sur cette planète. Amen. En tout cas, clic suivant. Nous voici dans Deutéronome, je pense. 29, 29. Alors, selon les versions, c'est le verset 28. Les choses anciennes, les choses cachées, pardon, sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alors, dans ce texte, dans le contexte, hein, faut toujours lire le texte dans le contexte, sinon ça devient un prétexte, comme disait l'autre, hein, pour lui faire dire ce qu'on veut. Mais quand on lit ça dans le Deutéronome, on voit que Moïse vient de rappeler au peuple la loi, parce que maintenant ils sont sur le point de conquérir le pays promis. Après Deutéronome, c'est Josué, la conquête. Alors il les prépare, Dieu les prépare par Moïse et tout ça, et puis des choses très intéressantes. Par exemple, c'est dans le chapitre suivant que Dieu dit, j'aime tellement ce verset, « Choisis la vie afin que tu vives, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui », au verset 20. Du chapitre 30. Choisis la vie. J'ai toujours été fasciné de voir que Dieu est incapable. Il y a des choses dont Dieu est incapable. Dieu est incapable de rester neutre. C'est-à-dire, il dit à l'homme, il y a la malédiction et la bénédiction, il y a la mort et la vie. Et Dieu pourrait, moi si j'étais Dieu, Dieu merci, ça risque pas d'arriver. Mais j'aurais tenté de dire, écoutez, hein, les gars, je vous ai prévenu, il y a la malédiction, la bénédiction, il y a la mort et la vie, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, alors maintenant, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Oui ou non? C'est votre choix, c'est votre vie, vous êtes des êtres responsables. Ouais, ça reste à prouver. Mais Dieu, non, Dieu est incapable de faire ça. Il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie. Il prend parti tout de suite, il ne peut pas rester neutre. C'est comme nos enfants, quand on leur donne un bon conseil, est-ce qu'on leur dit, voilà, tu peux faire ci ou tu peux faire ça? Mais débrouille-toi, hein, c'est ton problème, moi je ne veux pas le savoir. Mais non, on veut le savoir. Et bien sûr qu'on va les pousser, on va les agacer même, mais ce n'est pas grave, ça, ils feront pareil avec leurs enfants. Mais on veut qu'ils fassent le bon choix, ou ce qu'on croit être le bon choix. Alors on leur met un petit peu de pression. Choisis la vie. Oh, que j'aime ça, c'est la grâce de Dieu dans le Deutéronome déjà. Mais Dieu sait, et Moïse sait que ça ne va pas toujours être simple. Alors il les prévient, il dit attention. Et le verset est un petit peu étrange d'ailleurs dans le contexte. Mais il dit, souvenez-vous d'une chose, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Alors je reviens à l'école biblique, là c'était un peu un échappatoire quelque part quand même. Hein. Une manière de dire, ah, on ne comprend pas, ben, les choses cachées sont à Dieu, puis les choses qui nous sont révélées, elles sont à nous, et elles sont à nous pour qu'on les mette en pratique. Alors depuis, c'est devenu un leitmotiv un peu, quand j'étais à l'école publique, quand on avait une question un petit peu difficile, on se disait « Ah, Deutéronome 29, 29 !» Bien commode. Ce qui n'excuse pas une réflexion saine est d'étudier la parole et d'étudier la vie pour essayer de comprendre, de cerner les choses. Mais c'est un appel solennel à embrasser le mystère et à accepter qu'il y a des choses qu'on peut comprendre jusqu'à un certain point, mais seulement jusqu'à un certain point. Et que Dieu nous garde la tentation dans laquelle nous, chrétiens évangéliques, tombons souvent, de vouloir toujours avoir réponse à tout. C'est une maladie terrible. On parle du Seigneur autour de nous, et il y a toujours, d'ailleurs, un cliché veut que dans la Bible, il y a toujours la réponse à toutes les questions. Moi, j'en suis pas sûr. Je crois que Dieu est la réponse à toutes les questions. Oui, mais est-ce qu'il y a toujours un verset approprié pour chaque question qu'on nous pose ou qu'on se pose? J'ai mes doutes. Permettez-moi d'avoir mes doutes. Il y a des choses qui me dépassent. Vous, non? Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'on peut comprendre jusqu'à un certain point ou qu'on pense avoir comprises. Mais il y a des choses où il faut qu'on admette. J'allais dire une bonne fois pour toutes, ce serait merveilleux. Il faut qu'on admette que, ben non. J'ai été étonné souvent en parlant avec des amis non chrétiens qui me posaient des colles, comme les gens aiment parfois nous en poser, comme on en a posé aux autres, ou même dans l'Église. Hein. Et puis de voir comment, quelquefois, C'est comme, j'ai le sentiment qu'on va aller nulle part dans cette discussion. Vous savez, quelquefois on tourne en rond et des questions un peu. Et il y a des fois où on n'est pas très sûr nous-mêmes. Alors, j'étais toujours, souvent impressionné de voir comment, de voir la réaction des gens quand on leur répond « Ah ben là, vous me posez une colle. Là, je ne sais pas. » Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent, ça ne décourage pas les gens de se poser des questions. Au contraire, j'ai remarqué que souvent, ça désarmait un petit peu la discussion et ça fait que la personne se dit « Ah tiens, ah bon, lui aussi, il ne sait pas tout. Alors ça m'intéresse de parler avec lui ou avec elle. » Parce que parler avec les gens qui savent tout, c'est très fatigant. Moi, les personnes qui savent tout, que Dieu les bénisse et qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils se calment un peu, là, mais... Oh, je sais. C'est quoi ta question? Je vais te montrer dans la Bible. Mais oui, il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Mais si on n'a pas un peu de bon sens là, et assez d'humilité pour reconnaître qu'il y a plein de choses qui nous dépassent, on aura de mauvaises surprises en chemin, mes amis. Et on en aura des surprises. Un homme de Dieu a écrit « Si nous ne sommes pas à l'aise avec le mystère, nous ne le sommes pas non plus avec l'évangile que nous prêchons. Parce que notre parcours vers la transformation nécessite une disposition à renoncer à tout contrôle et à nous abandonner à un processus qui nous dépasse. » Wow. Et quelque part, prier que Dieu nous transforme à l'image de Jésus, est-ce que ce n'est pas se jeter dans le mystère là? C'est un peu, je dirais pas un saut dans le vide, mais un saut dans ses bras en tout cas. Comment le Seigneur va le faire? Seigneur, donne-moi de la patience. Ouh, c'est dangereux. Il va le faire, c'est sûr. Mais peut-être pas à votre manière. Là. Oui, je veux de la patience, puis je la veux tout de suite. Ouh là là. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Hein. Alors, il y a plein de choses qui nous dépassent, et c'est tant mieux. Que Dieu renouvelle dans nos cœurs un esprit d'humilité face à sa parole, face à la vérité du monde qui nous entoure, pour affirmer nos certitudes, pour affirmer notre assurance en tant que chrétien, mais que notre assurance ne devienne pas de l'arrogance. « Oh, mais je sais, c'est facile, attendez, donnez-moi 5 minutes, je vais trouver le verset. D'ailleurs, je connais la Bible par cœur. Oh, oh là, si vous... Alors là, vous m'avez perdu, là. » Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui connaisse grand-chose de la Bible par cœur. Et ça me rassure, parce que moi, j'ai du mal à mémoriser quelques versets ici et là. Alors, si vous la connaissez par cœur, je me sens un peu découragé. Là. Enfin bon. Clic suivant, avec un peu le pendant dans le Nouveau Testament. À gauche, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est un miroir, croyez-le ou non. Et on ne le voit pas de votre place, sans doute, mais... Bon, la photo n'est pas très bonne, là, mais... En fait, on pourrait discerner, si on veut... Au départ, c'est le visage de quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Et cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » Alors moi, quand je me regarde dans le miroir, mis à part le fait que mon oreille gauche est à droite et vice-versa, je me vois très clairement, au contraire, plus que jamais. Mais à l'époque, au temps de Jésus, on sait que le miroir, souvent, pouvait peut-être ressembler à ça. C'était du métal poli ou autre. Autrement dit, c'est une image un petit peu diffuse. Hein. Nous voyons... comme dans un miroir, d'une manière confuse. On n'aime pas ça. On ne dit jamais « Amen » quand on est dans ça, c'est drôle. Ah, « Amen », nous voyons de manière confuse. Mais alors, le jour vient où nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Est-ce que vous êtes prêts à dire « Amen » ?« Amen ». Enfin, « Amen », c'est qu'il en soit ainsi. Alors, ça dépend dans quel sens on le dit, mais c'est quand même à dire « ben oui ». On peut dire « Amen » ou on peut dire « ben oui ». Je connais partiellement. Ben oui, il y a des choses que je ne sais pas. Comment Dieu va agir dans le cœur de vos enfants ou de mes petits-enfants pour les amener à lui? Comment? Est-ce que c'est moi qui dois dicter ça? Ben, il faut qu'il fasse comme si, il faut qu'il fasse... Non, il n'y a que Dieu qui connaît le chemin des cœurs et puis qui saura dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans ou après ma mort, ouais, j'aimerais vraiment que ce soit bien avant, se révéler dans leur cœur. Je pense au témoignage d'un homme et d'une femme qui ont prié pour le salut de leurs enfants toute leur vie, et certains se sont approchés du Seigneur de leur vivant. Et quand ils sont morts, il y avait au moins un de leurs enfants qui n'était pas venu au Seigneur. Ils sont morts en embrassant le mystère. Et après leur mort, quelque temps après, Dieu a fait une œuvre de grâce dans le cœur du petit dernier, hein, qui s'est donné. Leurs prières ont été exaucées. C'est un peu comme planter une semence et mourir. Est-ce que la semence meurt? Ben non, moi je disparais du champ, mais la semence va croître, elle va porter le fruit qui a été semé de mon vivant. C'est pas encourageant pour les seigneurs, pardon? Je dis ça comme un Africain. Hein. Les Africains, c'est très affectueux quand ils disent un vieux, c'est ça, les vieux. Hein. Alors, c'est très affectueux, d'accord. Et puis d'abord, je fais partie de votre club, alors. Alors, voilà. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. La foi, c'est la confiance, parfois aveugle, il faut le dire. On fait confiance à Dieu et on s'en remet à lui chaque jour. L'espérance, c'est la confiance pour l'avenir, pour demain, qu'on ne maîtrise absolument pas, dont on ne connaît rien. On a des plans et des projets, plein la tête et plein les mains et plein les papiers et plein l'iPhone, mais il n'y a que Dieu qui sait comment va finir la matinée. Il n'y a que Dieu qui sait comment on va finir la journée, si seulement on va la finir. Ben on va la finir, ici ou dans la gloire. Ou... C'est pas vrai? Alors on est là avec nos plans, nos projets. Jacques en parle de ça. Il dit, ne dis pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu peux dire, j'ai tel et tel plan, puis je te les remets, Seigneur. Mais il y a le mystère de l'inconnu, de l'avenir. Hein. Mais ce n'est pas grave. Je peux embrasser le mystère, comme Paul le fait ici, en disant, ben, le temps vient où je connaîtrai parfaitement. Mais en attendant, ce n'est pas grave. Je peux vivre dans une semi-ignorance. C'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Moi, quand je monte dans un avion, j'essaie toujours d'aider le pilote. Ah, c'est sérieux. D'abord, quand l'avion décolle, je retiens un peu ma respiration. Parce que comme ça. Et quand il atterrit, je serre un peu les fesses parce qu'on ne sait jamais. Non ? Est-ce que je suis le seul ici ? Vous vous moquez de moi, là, ça vous fait rire, mais c'est pas drôle. Moi, il y a des moments qui me crispent un petit peu, quoi, je sais pas. Et attendez, vous allez rire encore plus fort, j'ai deux enfants, elle est hôtesse de l'air et lui, il est steward. Alors écoutez, la génétique, là, ça marche pas, là. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Ou alors c'est la faute de ma femme. Ah ben oui, bien sûr, c'est toujours la faute de la femme. Oh, le mystère, les mystères de la vie, hein. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ?
Amen.
Oh, c'est retentissant, gloire à Dieu. Mais il faut que ça retentisse aussi demain et après-demain. Et... Dieu sait ce que nul autre sait. Ses voies sont impénétrables, mais c'est une expression qu'on a souvent tordue, déformée. En fait, c'est le psalmiste hein, qui dit que les voies de Dieu lui semblent bien... Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oui, mais c'est de l'admiration, ça devient même de l'adoration. Il vaut mieux être dans l'adoration que dans la perplexité, hein, dans l'angoisse. Le Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Renouvelle mon intelligence pour que je comprenne ce que je dois comprendre. Aide-moi à être attentif à ta voix et à peut-être ce que d'autres peuvent me dire pour éclairer mon chemin. Mais Seigneur, je capitule. Parce que la foi, c'est s'abandonner, oui ou non ? Tant pis pour ceux qui aiment être des champions et des vainqueurs et des héros et tout ça. Tant mieux, il y a un temps pour ça, peut-être, peut-être. Mais la vraie vie, c'est de pouvoir s'abandonner. On n'est jamais autant en sécurité que quand on s'abandonne dans les mains du Père. Amen. Et pourquoi pas chaque matin, tant qu'on y est. Et pourquoi pas chaque fois que l'inquiétude essaie de réclamer des droits qu'elle n'a pas. Hein. Et le Seigneur, oh, à qui j'appartiens déjà ? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il est mon Père. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est mon Père et il est dans les cieux. Il règne sur l'univers tout entier. Est-ce que je peux lui faire confiance pour mon petit bidule là, pour mon problème ou mon gros problème ? Ben, il faut que je réapprenne tous les jours. C'est un apprentissage. Puis c'est bien comme ça, clic suivant pour que j'avance un petit peu quand même, s'il vous plaît. Quelques textes, rassurez-vous, on ne va pas tous les lire du tout, mais je parlais de décollage et d'atterrissage, j'ai décollé un peu tard, il faut penser à l'atterrissage, mais c'est juste quelques textes. Dans Matthieu 13, je vous encourage à les noter si vous voulez méditer sur le sujet, mais Matthieu 13, tant que vous y êtes, notez juste le chapitre, ça vous remet dans le contexte. Jésus parle à travers des paraboles, il explique aux disciples comment il leur a été révélé les mystères du royaume, en partie. Et puis comment les mêmes paraboles font que ceux qui ne sont pas disposés à croire et à s'abandonner, pour eux, c'est un peu opaque. C'est un peu comme un écran. Si au lieu d'un écran contre le mur, on avait un écran ici, alors il y a l'image qui est projetée sur l'écran, qui est très claire pour ceux qui sont de ce côté, mais ceux qui refusent de passer de ce côté, qui sont derrière, ils voient juste un écran. Ils voient un écran plus ou moins obscur. Matthieu 13, chapitre magnifique, parlant du mystère du royaume de Dieu, Juges 13, qui nous parle du Seigneur qui se révèle au père de Samson sous le nom de « Je suis merveilleux ». Ben oui, mais il pouvait le dire, c'était le Seigneur lui-même, vraisemblablement. Et en fait, le texte veut dire « Je suis mystérieux ». C'est-à-dire, tu veux me connaître, tu veux savoir qui je suis, ben pour le moment, je me révèle à toi comme le Dieu du mystère. Et il faudra t'en contenter. Mais c'est un Dieu qui intervient, qui est présent. Psaume 139, verset 17, on y a déjà fait allusion, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Ésaïe 55, vous voulez bien qu'on le lise ensemble, texte magnifique, s'il en est, qui nous rappelle l'humilité à laquelle Dieu nous appelle face à l'inconnu. Loin de moi ce matin de vous décourager d'investiguer, d'étudier, de chercher, de sonder. On est appelé à cela toute notre vie. Mais comme je le partageais hier, j'ai toujours cette image fascinante de Moïse devant le buisson ardent. Vous connaissez l'histoire ? Il voit un buisson ardent dans le désert qui brûle mais qui ne se consume pas. Alors un bon cartésien qu'il est, comme tous les Gaulois, enfin, non, il n'était pas Gaulois, mais Moïse s'approche, tiens donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ça brûle et ça ne se consume pas. Il y a un truc, paraphrase libre. Il s'approche et à un moment donné, Dieu dit stop. Tu es sur une terre qui est sainte, enlève tes sandales. Sous-entendu, Dieu l'appelle à l'adoration, à l'abandon total. Et pour moi, ça résume plein de choses, cette scène. Les choses qui me dépassent, les choses qui peut-être me bouleversent. C'est peut-être un échec, c'est peut-être un deuil, c'est peut-être une maladie incurable. Oui, Dieu est le Dieu de la guérison, mais on serait des piètres menteurs si on parler comme si Dieu guérissait toujours tous les malades, parce que c'est simplement pas vrai. Et c'était même pas vrai dans l'Évangile. Excusez-moi, si vous doutez de ma parole, j'espère que je suis pas en train de semer le doute, mais vous verrez que c'était pas toujours vrai. Est-ce que le Seigneur guérit toujours tous ceux ? Est-ce qu'il règle toujours tous nos problèmes pour lesquels on prie ? Ben non. Alors quelquefois, c'est parce qu'on est têtu, qu'on a une tête de pioche et qu'on ne veut pas entendre sa voix qui nous appelle à la repentance. C'est clair. Se remettre en question. D'autres fois, c'est parce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi il permet ou pas. Alors on a besoin de s'abandonner à lui. De persévérer dans la prière, oui. Mais en même temps, de s'abandonner dans la foi. Amen. S'abandonner dans la foi. En sachant qu'il a toujours le dernier mot et que c'est toujours le bon mot. Quelqu'un disait, je crois que c'est Saint-Augustin qui disait, la vie chrétienne se résume en deux mots, Amen et Alléluia. Amen, ça veut dire, il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, je me tiens debout sur les promesses, sur la fidélité de Dieu, éternelle, sur sa parole, Amen. C'est ce que je fais en tant que chrétien. Assis dans les lieux célestes en Christ, on est assis ou on est debout, mais ça tient bon, Amen. Et puis Alléluia, c'est à toi la gloire, Seigneur. C'est pas Alléluia Léonard Cohen, là où c'est très beau, mais on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, même si c'est de très belle musique, mais c'est Alléluia, à Dieu seul soit la gloire. Tout est de lui, par lui et pour lui, Romains 11, 36. Est-ce que nous le croyons ? Tout est de lui, par lui et pour lui. On est dans de bonnes mains quand on est dans les mains du Seigneur. Amen. Alors je disais, Ésaïe 55, verset 6, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Et mon ami, en passant, si tu es loin de Dieu ce matin et que tu es empêtré dans la haine, la colère ou la jalousie ou je ne sais quoi, ben, bienvenue au club, on est passé par là, la plupart d'entre nous. Mais sache que le Seigneur t'appelle à t'humilier devant lui. Arrête de marchander avec Dieu. Dire, Seigneur, si tu fais ci, si tu fais ça, moi je... Non, Dieu, ce n'est pas un marchand de tapis, excusez-moi, avec tout le respect pour les marchands de tapis. Dieu, c'est Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux, dont le nom doit être sanctifié et honoré. Mais si ce matin, tu as cette simplicité, cette honnêteté de dire, Seigneur, je ne peux plus vivre sans toi. Excusez l'expression, mais j'en ai marre. J'en peux plus, j'ai besoin de toi. Viens purifier, transformer mon cœur et ma vie. Viens me pardonner, faire de moi une nouvelle créature. Viens faire de moi ton enfant. Mais bien sûr qu'il va le faire. Il l'a fait pour un innocent comme moi, enfin innocent, pas si innocent. Il l'a fait pour plein de gens au milieu de nous ce matin et il le fait pour une multitude dans le monde entier où l'Évangile va de l'avant et gagne du terrain de plus en plus par la grâce de Dieu, bien sûr qu'il le fera pour vous. Vous ne le méritez pas plus ni moins qu'un autre. C'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas un mystère, ça ? Le mystère de la grâce. Dieu qui nous aime tellement, qui nous prend tel qu'on est, mais qui nous aime trop pour nous laisser comme on est. Ah, nuance. 55, Ésaïe 55, on y arrive, hein ? Verset 8. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées, écoutez bien, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Est-ce que Dieu est en train de nous rabaisser, là, de dire, vous n'avez rien compris, vous êtes nuls, les humains. Moi, je sais, vous, vous savez rien, vous êtes vraiment mauvais. Non, non, je ne crois pas que c'est... Dieu n'est pas comme ça. On ne voit jamais Jésus comme ça. Je crois qu'il est en train de dire, tant que vous êtes sur cette terre, il y a pas mal de brouillard sur la région, sur toute la terre, vous ne pouvez pas, dans votre condition présente, saisir tout. Il y a plein de choses qui vous dépassent. Mais je suis votre Dieu, dans les cieux, et je connais toutes choses du début à la fin, de votre vie et de l'histoire de l'humanité. Abandonnez-vous à moi, revenez à moi, parce que j'ai des choses meilleures pour vous que tout ce que vous avez pu imaginer. Amen. J'aime ce texte. La pluie et la neige descendent. Alors, la pluie et la neige, oui. Descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. C'est un livre, j'allais dire, pardonnez la boutade, j'allais dire, c'est un livre magique, la Bible. Rien de magique, c'est un livre miraculeux, c'est un livre mystérieux. Parce que moi, je la lis depuis 40 ans et plus, la Bible, et franchement, il y a encore pas mal de mystères. Peut-être même qu'il y en a un peu plus qu'il y a 40 ans. Et ça me va très bien, ça me va très bien. Ce serait minable d'adorer un Dieu qui n'est pas plus grand que nous, non ? Ce serait ennuyeux, mais nous adorons un Dieu qui est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, et qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen ? Et ça, c'est glorieux. Adorer un Dieu qui me dépasse, moi, ça me va. J'aime ça. Un enfant qui vénère, qui aime son père, sa mère, c'est une des choses qu'il aime. C'est que papa, il est grand, il est fort, il peut tout faire. D'ailleurs, papa, enfin, c'est, l'illusion ne dure pas longtemps. Mais quand même, quoi. Je veux dire, papa, c'est papa, quoi. Hein. Et maman, c'est maman. Et puis, mais Dieu, c'est Dieu. L'éternel, le tout-puissant, le mystérieux, le glorieux, le majestueux. C'est lui que nous adorons, Jésus-Christ, que nous servons. Amen. Et puis Jean 16, qui m'appelle à conclure, ce qui est très bien. Jean 16 qui dit, alors j'aime beaucoup ce texte aussi, Jean chapitre 16, verset 12, où il est dit, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Littéralement, il dit, « Vous ne pouvez pas les porter, ce serait trop lourd pour vos petites épaules. » Pourtant, c'était des gaillards, hein, c'était des pêcheurs, c'était des costauds, probablement, j'en sais rien. C'était des jeunes, donc ils étaient forts. Forcément, quand les jeunes, les forts. Et il dit, mais quand le défenseur ou quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire. Et certainement, on peut comprendre que Jésus parle ici de l'esprit qui va inspirer les Écritures. Toutes les Écritures qui sont inspirées de Dieu. Mais moi, je crois qu'il y a une autre dimension aussi. Et que ce matin, le Seigneur nous dit encore, si je voulais, j'aurais plein de choses à te dire que tu ne sais pas, que tu ne comprends pas, mais tu ne les comprendrais pas mieux. C'est comme moi, si on voulait m'expliquer tout ce qui concerne l'informatique et tout ça, ce serait très fatigant pour celui qui va m'expliquer. Il va trouver ça très ennuyeux, parce qu'il va se rendre compte que le bonhomme, ça rentre par ici, ça ne ressort pas, je n'y comprends pas grand-chose. Pourvu que ça marche, là je comprends, je m'en sers. On n'est pas un peu comme ça ? Et Jésus dit, je vous aime trop pour vous écraser en vous révélant tout. Si on savait tout ce qui nous attend maintenant jusqu'au moment de notre mort, est-ce qu'on serait content? Est-ce qu'on serait rassuré? On serait enfin en paix? On aurait une trouille bleue, on serait tous en train de trembler sur nos chaises. Comment je vais faire face? Seigneur, je ne dis pas que vous allez avoir une fin de vie terrible, mais je veux dire, tout accumulé là, sur les mêmes épaules, on rentrerait dans le sol, on serait écrasé. Croyez pas? En pensant à nos familles, à ce qui se passe dans le monde et tout ça. On n'en pourrait plus. Alors Dieu nous épargne. Est-ce qu'il se peut que les mystères de la vie, c'est en partie parce que Dieu nous épargne? Et qu'en temps utile, au moment venu, comme dira Habacuc, au cours des années, Seigneur, accomplis ta parole. Mais au cours des années, avec le temps. Merci de ne pas nous en mettre trop à la fois. Mais merci de nous conduire dans la lumière. Parce que Proverbe 4, 18 dit, celui qui... Le juste marche sur le sentier de l'Éternel et sa vie est comme la lumière qui va, la lumière du matin qui va croissant. Merci Seigneur. Quand on marche avec le Seigneur, on avance dans la lumière et vers la lumière. Il éclaire notre chemin en cours de route. On ne sait pas tout, on ne saura jamais tout. Et ne soyons pas des gens des je-sais-tout. Parce que les je-sais-tout ne font qu'afficher leur ignorance. Soyons des hommes et des femmes qui affirment ce qu'ils savent. Qui déclare et qui proclame les certitudes de la foi, de la grâce, de l'amour de Dieu. Mais restons humbles, comme les hommes de science auraient besoin de rester humbles. Je me demande s'il n'y aurait pas eu beaucoup moins de chicanes et de querelles entre la science et la foi si les uns et les autres, étaient restés plus humbles. Mais Dieu merci, beaucoup de scientifiques le sont, et beaucoup de chrétiens le sont. Mais... Et puis, chapitre 21. Alors merci Seigneur de ne pas tout nous dire, mais s'il te plaît, dis-nous ce qu'on a besoin de savoir pour avancer. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Deutéronome 29:9. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses qu'il a révélées, alors il faut qu'on y travaille, il faut qu'on les vive. Et franchement, quelqu'un a dit, c'était un comique, mais ce n'était pas drôle, il a dit, moi ce qui me dérange dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. Subtil. Je ne dirai pas qui, parce que ce n'est vraiment pas une référence, mais... Mais en l'occurrence, il n'avait pas tort. Parce que ce que je ne comprends pas, je ne sais pas trop, bon, c'est pas là, je ne peux pas en faire grand-chose. Mais quand il me dit de pardonner à mes ennemis, de les bénir, de les aimer, je comprends un peu quand même. Hein. Quand il me dit de pardonner 7 fois, 70 fois 7 fois, je n'ai pas besoin de faire le calcul pour comprendre que je dois pardonner. Alors, Jean 21, le mot de la fin, la fin de la fin. 21-20. J'ai une discussion très amusante avec Pierre, qui était un drôle de bonhomme. Il n'avait pas vraiment la maturité que nous avons acquise avec les siècles. J'ai toussé. Hein. Alors Pierre se retourne, c'est après que Jésus ait parlé de Judas et tout ça, et il voit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire celui, on pense bien que c'est Jean lui-même hein, qui a écrit l'Évangile, très vraisemblablement, qui s'était penché vers Jésus et qui avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? » Alors lui se dit, ben tiens, c'est le temps des questions-réponses, alors moi aussi je vais en poser une. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui, que lui arrivera-t-il » En parlant de Jean, discrètement, parce qu'il avait des manières. Et lui, là, qu'est-ce qui va lui arriver à Jean hein? Et une fois de plus, Pierre a pris un petit peu ce qui pourrait ressembler à une claque pleine d'amour. Hein? Mais Jésus lui répond, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il, toi ?» « Suis-moi. » En anglais, il y a une abréviation, M-Y-O-B, M-Y-O-B, ça veut dire « Mind your own business », pour ceux qui parlent anglais. Pour les autres, en français, ça veut dire « Occupe-toi de tes affaires. Ouais. » Et Jésus est trop bon et miséricordieux pour parler comme ça. Puis le grec, je ne sais pas, mais... Alors il dit « Ok, Jean, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Pierre. Je vais m'occuper de Jean. T'inquiète pas, j'ai des œuvres préparées d'avance pour lui, et jusqu'à sa mort, et en l'occurrence, semble-t-il, c'est Jean qui va vivre le plus longtemps de tous. Sans doute plus de 90 ans, nous disent les théologiens. Mais, et Pierre est certainement parti bien avant. Mais Jésus lui dit, peu t'importe, c'est bien de te préoccuper du sort de ton frère, mais ne t'occupe pas de ses affaires, trop. Mais toi, suis-moi. Alors, clic suivant, s'il vous plaît. Je pense que... Voilà, Daniel 2:28 qui nous dit « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères en temps utile, en temps et heure, quand il le juge opportun. Mais aujourd'hui et maintenant, la question c'est « Qu'est-ce que je fais de sa parole ?» Clic suivant, s'il vous plaît. avec des questions. Donc, je vous propose un temps simplement de réflexion devant le Seigneur, de prière. Quel est mon mystère? Est-ce qu'il se pourrait que pour certains d'entre nous, il y a une situation qui vous dépasse et vous dites « je ne peux pas avancer ». Vous êtes bloqué dans votre progression avec le Seigneur parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage parce qu'il y a quelque chose que vous considérez comme insurmontable. Une question sans réponse, une situation dans votre famille ou dans votre vie personnelle, vous dites « non, là, ça ne passe pas, je ne comprends pas ». Est-ce que vous et moi, on a le courage ce matin d'identifier, s'il y en a un, notre blocage, le mystère qui nous encombre? Ça prend du courage. Je dis, Seigneur, ben voilà, ça, ça passe pas. Je comprends pas. Je peux pas accepter ça. Puis après, est-ce que je suis prêt, en pensant à ce problème, à ce défi, à ce mystère, à dire, Seigneur, je plie le genou devant toi. Je ne me résigne pas, mais je l'accepte. C'est pas du tout pareil. Se résigner, c'est, excusez-moi, Inch'Allah. Dieu fera ce qu'il voudra, moi je m'en fiche, j'y peux rien. Non, non, c'est pas ça, la foi. C'est l'acceptation, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, Seigneur, je veux accepter la réalité de ce qui est ma vie présente, j'accepte cette situation. Je veux la vivre pleinement. Et si c'est de m'occuper de quelqu'un handicapé, si c'est de surmonter un deuil, ben, si je suis dedans, je suis dedans. Seigneur, je veux être vrai, je veux être dans la réalité de ce que je vis avec ta grâce, qui est suffisante pour toute chose. Paul le dit, ta grâce, ou plutôt Jésus dit à Paul, ma grâce te suffit. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Et là où la grâce, la gloire est jamais loin. Mais c'est la grâce qu'il nous faut. Et la gloire, on la verra. En son temps, à sa manière. Et puis, troisième question, est-ce que je suis prêt à adorer le Dieu qui révèle les mystères, comme dit Daniel, qui les révèle quand et comme il le juge bon dans son infinie sagesse? Ouf, c'est du travail tout ça. Matière à réflexion. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, merci pour ces moments devant toi et devant ta parole. Et je te bénis de ce que tu ne nous laisses jamais seuls. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu es le Dieu de tous les mystères, qui en son temps, en ton temps, fait toutes choses belles, qui en ton temps éclaire notre chemin, qui nous appelle à aller sur un chemin où la lumière va croissant jusqu'au milieu du jour, jusqu'au jour glorieux où nous serons avec toi. Et ce matin, avec mes frères et sœurs qui en réalisent le besoin, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour les mystères que j'ai laissé me bloquer, m'empêcher de progresser, de persévérer dans l'obéissance. Seigneur, ce matin, pardonne-nous. Purifie-nous tout à nouveau par ton sang précieux. Et aide-nous de plier le genou comme Moïse devant le buisson ardent pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne. Et Seigneur, nous ne sommes pas résignés, mais nous acceptons nos mystères et nous voulons cheminer avec toi à travers ces mystères jusqu'au jour glorieux où nous verrons toutes choses comme tu les vois maintenant. Pardonne nos craintes, pardonne nos inquiétudes, pardonne nos découragements. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous relevons la tête. Au nom de Jésus, nous levons les yeux vers le Dieu des cieux et nous proclamons que tu es Dieu, que tu es le Tout-Puissant, que tu es l'Éternel, le seul sage. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adorons et nous voulons vivre à ta gloire. Merci, Seigneur. Éclaire et guide notre chemin. Et que nous puissions persévérer, et que nos vies reflètent ta grâce et ta lumière pour tous ceux qui nous entourent, dans nos maisons, nos lieux de travail, dans la rue, dans nos contacts avec notre prochain, quel qu'il soit au moment présent. Seigneur, je te le demande et nous te le demandons pour ta seule gloire, Père, au nom puissant et précieux de Jésus. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire.